Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire Savitri, livre 4, chant 4, La quête de Sri Aurobindo, traduction de Satprem en français. L'oreille intérieure à l'écoute de la solitude. Penché sur ses propres profondeurs sans bornes, penché sur ses propres profondeurs sans bornes, pouvait entendre le rythme intense de la pensée sans mots qui se blottit dans le silence derrière la vie. Et dans la grandiose passion de son sommeil, sous les caresses du soleil, la tendre voix sourde de la terre, balbutiante, montait avec un murmure de soif. Loin de la clameur brute des nécessités criantes, le mental, toujours en marche, apaisé, pouvait sentir. Tranquille, derrière les dehors aveugles de sa volonté, l'embrasse inlassable de la terre aimante, patiente, muette, et savoir que la mère de nos formes est une âme. Cet esprit qui se cogne dans l'arène des sens, cette créature meurtrie dans le mortier des jours, pouvait trouver en elle de vastes espaces de délivrance. Ce monde n'était pas encore tout occupé par le souci. La poitrine de notre mère gardait encore, pour nous, ses régions austères et ses profondeurs méditatives. Ses régions austères et ses profondeurs méditatives. Ses étendues impersonnelles perdues et inspirées. Et la puissance de ses antres d'extase. La muse de ses lèvres couvrait le symbole de ses mystères. La muse de ses lèvres couvrait le symbole de ses mystères. Et garder pour ses yeux purs le sacrement. De ses cavernes et de ses vallons dans la poitrine de joie, les autels de ses montagnes, pour les feux. Oh, God. Les autels de ses montagnes pour les feux de l'aurore et les plages nuptiales. Où l'océan dormait, et l'immense psalmodie de ses lois prophétiques. Elle avait des prairies pour son rire solitaire, des plaines paisibles et heureuses dans les bras de la lumière. Seule avec le cri des oiseaux, le coloris des fleurs et les merveilles sauvage allumé par ses lunes, et de sages soirs sans éclat qui s'allumaient aux étoiles, et d'obscurs frémissements dans l'infinitude de la nuit. Souveraine, elle exultait sous l'œil de son Créateur, Elle sentait son intimité dans la poitrine de la terre, parlait encore à une lumière derrière le voile, communiait encore avec l'éternité par-delà. Elle appelait de rares terriens doués à partager la joyeuse communion de sa paix. Le vaste, les sommets étaient leur pays naturel. Les valeureux et les sages rois, leur devoir terminé, libérés de la tension guerrière de leurs tâches, venaient dans la sérénité de ces assises sauvages. La lutte était finie. Le répit s'ouvrait devant eux. Heureux, ils vivaient avec les oiseaux et les bêtes, et les fleurs, et les rayons du soleil, et le bruissement des feuilles. Ils écoutaient les vents d'orage rouler dans la nuit, rêvaient avec les étoiles dans leur immuable constellation muette, et logés dans les matins, comme sous une tente d'azur, et ne faisaient qu'un avec la gloire des midis. Quelques-uns plongés plus profond, délivrés de l'étreinte extérieure de la vie, appelés par un intime secret brûlant, en ce fond d'âme à l'étoile blanche inassaillie. Ils partageaient une félicité à jamais vivante. Dans l'extase et le silence, ils entendaient une voix profonde, contemplaient une lumière qui révèle tout. Toutes les différences créées par le temps étaient dépassées. Les fibres du monde vibraient avec les cordes de leur propre cœur, intimement proche du cœur qui bat dans chaque poitrine, ils arrivaient au moi qui est un en tous, par l'amour sans limite, par l'amour sans limite. Accordés au silence, et à la cadence du monde, il dénouait le nœud de l'emprisonnement mental. Le vaste regard imperturbé du témoin était atteint. Le grand œil spirituel de la nature se dessillait. Chaque jour, désormais, il grimpait au sommet des sommets. La vérité se penchait sur eux depuis son royaume suprême. Au-dessus flamboyaient les soleils mystiques de l'éternité. Sans nom, sans demeure, les ascètes austères, abandonnant la parole, le mouvement, le désir siégeait à l'écart des créatures, immergé, seul, immaculé dans les hauteurs sereines du moi, concentré sur les lumineux pics sans voix. Les ermites aux cheveux torsadés nus du monde, immobiles comme les grandes collines sans passion, massés alentour, telles les pensées de quelques vastes états d'âme, attendez l'ordre de l'infini pour finir. Accordez à l'universelle volonté les voyants satisfaits en celui-là qui sourit derrière les formes terrestres, restés inchagrinés par l'assaut des jours. Autour d'eux, comme les arbres verts qui ceinturent la colline, de jeunes et graves disciples façonnés par leur toucher, entraînés à l'acte simple et à la parole consciente, grandissaient en eux-mêmes et grimpaient vers leur hauteur. Chercheurs venus de loin sur le sentier de l'Éternel, amenés à ces tranquilles fontaines par la soif de leur esprit. Ils buvaient le trésor d'une heure silencieuse, baignés dans la pureté de ce regard de douceur, où sans s'imposer, les conduisait dans sa paix, et sous son influence trouvait les chemins du calme. Premiers enfants de la monarchie des mondes, dirigeants héroïques d'un temps à venir, fils des rois nourris dans leur air large, tels des lions qui gambadent au soleil et au ciel, ils recevaient là semi-consciemment leur empreinte divine, formée sur le type des hautes pensées qu'ils chantaient. Ils apprenaient la vaste magnificence d'une musique d'âme qui nous fait camarades du souffle cosmique. Sortis des chaînes de leur petit moi, séparés souples et fermes sous la main éternelle, ils affrontaient la nature d'un bras audacieux et amical. Ils servaient en elle l'énergie qui façonne ses œuvres, d'une seule âme avec tous, libre des liens qui étouffent, large comme un continent au soleil chaleureux, dans la joie impartiale d'une égalité qui embrasse tout, ces sages respirés par le délice de Dieu dans les choses. Œuvrant à la lente éclosion des dieux, semant des pensées immortelles dans les jeunes esprits, ils enseignaient la grandiose vérité que la race des hommes doit incarner, où, à quelques-uns, ils ouvraient les portes de la liberté. Transmettaient la lumière à notre monde en lutte. Ils respiraient comme des esprits délivrés du lourd carcan du temps. Camarades et instruments de la force cosmique, ils se servaient d'une maîtrise naturelle comme celle du soleil. Leurs paroles aidaient la terre, leur silence aidait la terre. Un bonheur magique coulait à leur toucher. L'unité était la souveraine de cette paix sylvestre. La bête sauvage rejoignait en sympathie sa proie, persuadant la haine et le conflit de cesser. L'amour qui coule du sein de l'unique mère, guérissait par leur cœur ce dur monde blessé. D'autres s'évadaient dans des confins de la pensée, là où le mental dort sans mouvement, attendant la naissance de la lumière, et revenez frémissant d'une force sans nom, ivre d'un vin d'éclair dans leurs cellules, la connaissance intuitive bondissait dans les paroles, saisie, vibrant, brûlant d'un mot inspiré, écoutant la voix subtile qui enveloppe les cieux, transportant la splendeur qui a allumé les soleils, ils chantaient les noms de l'infini et les pouvoirs immortels. En des vers qui réverbéraient le mouvement des mondes, des ondes de son jaillissaient de la vision des abysses de l'âme. Quelques-uns nus de la personne et de ses bandelettes de pensée englouties dans un immobile océan de puissance impersonnelle, restés là, grandioses, perdus dans la vision de l'infinie lumière. Ou camarades de la volonté éternelle, tracer le plan des temps passés et à venir. Quelques-uns s'envolaient d'un coup d'aile hors des mers cosmiques et disparaissaient dans un vaste ensoleillement sans fond. D'autres, silencieux, regardaient la danse universelle ou aidaient le monde par leur indifférence du monde. D'autres ne regardez plus, fondu dans un moi solitaire, absorbé dans une transe d'où nulle âme ne revient. Toutes les lignes du monde occulte à jamais coupées, les chaînes de la naissance et de la personne rejetée, quelques-uns sans compagnon arrivés à l'ineffable. Comme perce un rayon de soleil par une forêt ombreuse, la Vierge dort dans son char sculpté, la Vierge dort dans son char sculpté, glissé légèrement parmi ces lieux de méditation. Souvent au crépuscule, lorsque rentrent les troupeaux, mêlant aux ombres leur poussière épaisse, quand le jour bruyant s'efface sous l'horizon, elle reposait, arrivée dans un paisible bosquet d'ermites, enveloppée comme d'un manteau dans la patiente songerie de son esprit et sa prière intense. Parfois, près de la crinière fauve de la rivière d'un lion, parmi les arbres en adoration sur une rive de prière, une secrète sérénité sous le trône d'un air consacré l'appelait à arrêter ses rouatives. Dans la solennité d'un espace où l'esprit semblait se souvenir d'anciens silences et de grandes voix d'antan visiter le cœur, où la vaste liberté des voyants méditatifs avait laissé la longue empreinte de leur scène d'âme, conscients et éveillés à l'aurore blanche, comme à la nuit lunée, la fille de la flamme s'inclinait devant cette trace dormante. Et sous les paupières closes de cette tranquille splendeur, buvait la parenté du calme éternel. Mais le matin venait frapper, lui rappelant sa quête. Se levant de sa natte ou de sa couche à graisse, poussée sur son chemin inachevé, elle poursuivait l'orbite fatidique de sa vie, telle une prière qui interroge les dieux, silencieux, puis passe comme une étoile vers quelque au-delà brillant. Ainsi arrivera-t-elle à de larges étendues désertes où l'homme était un passant vers des lieux humains, et seul lutter pour vivre dans les vastitudes de la nature, appelant à l'aide d'invisibles pouvoirs magnanimes, accablé par l'immensité de son monde et ignorant de sa propre infinitude. Sous les yeux de Savitri, la terre multipliait ses visages changeants et l'appelait d'une voix lointaine, sans nom. Les montagnes, dans leur solitude d'anachorète, les forêts, les mille voix de leur cantique, tout lui décelait les portes de la divinité masqué. Sur des plaines rêveuses, des sables languissants, comme le lit agonisant d'un pâle soir ensorcelé, sous les feux de l'éclat d'un ciel livide, elle reposait, impassible comme à la fin d'un âge, ou traversait une meute ardente de roches entassées qui levait la tête comme à la chasse d'une tanière de ciel et des sommets désolés campés dans un ciel blafard, tels des sentinelles muettes sous une lune en dérive, où elle errait par quelques énormes bois solitaires, stridulant à jamais sous le cri des cigales, où elle suivait le long serpent d'une route luisante à travers des champs et des prairies, baignée d'une lumière crue, où elle débouchait sur la beauté vierge d'une étendue stérile, jamais touchée par une charrue ni pâturée par les troupeaux, et sommeillée sur des sables nus et assoiffée parmi le cri sauvage des bêtes de la nuit. Mais toujours sa quête fatidique restait inachevée. Toujours elle n'avait pas trouvé le visage prédestiné, celui qu'elle cherchait parmi les fils des hommes. Un grandiose silence enveloppait les jours majestueux. Les mois avaient nourri la passion du soleil, et maintenant un souffle brûlant assaillait la glèbe. Le tigre en rut rôdé par les terres prostrées, tout était lapé par une langue cuisante. Les vents de printemps avaient manqué, le ciel résistait comme du bronze. Fin du chant 4, fin du livre 4. Alors aujourd'hui, je vais commencer aussi le livre 5, le livre de l'amour. Chant 1, le rendez-vous du destin. Mais maintenant, le lieu et l'heure du destin étaient proches. Sans le savoir, elle arrivait au but qui n'a pas de nom, car, toute masquée qu'elle soit, d'un hasard aveugle et tortueux, la toute sagesse du destin est à l'œuvre. Nos actes traduisent une force omnisciente qui demeure dans l'irrésistible substance des choses. Et rien n'arrive dans le jeu cosmique qu'en son temps et au lieu prévu. Elle est arrivée dans une étendue légère et douce comme l'air, qui semblait un sanctuaire de jeunesse et de joie, une haute terre de libre et vert délices, où le printemps et l'été jouaient ensemble, se disputaient dans un aimable débat, insoucieux, embrassés dans une querelle de rire, à qui régnerait là l'espérance battait des grandes ailes soudaines, comme si une âme avait ouvert ses fenêtres par un pan de la terre. Et tout ce qui se trouvait à l'intérieur, oubliant les joies habituelles et les rêves ordinaires, obéissant à l'appel du temps et au destin de l'esprit, sentait la venue d'un changement, était soulevée vers une beauté calme et pure, vivant enfin sous les yeux de l'éternité. Les crêtes montagneuses attroupées assaillaient le ciel, poussaient leurs épaules rivales près des cieux, tels les chefs d'armée sur une frontière de fer. La terre prosternée dormait sous leurs pieds de roc. Plus bas, les bois se blottissaient dans un rêve d'émeraude et la lisière des fleuves scintillait dans un sommeil diamanté. De pâles torrents couraient comme un fil de perles blanches. Un souffle errant soupirait parmi les feuilles heureuses, voluptueux et lourd de parfums frais. Des vagues de vent tibutant hésitaient parmi les fleurs, l'aigrette blanche, droite et immobile comme un ray de lumière, les paons, les perroquets, parés de joyaux, le sol, les arbres, gémissant de la tendre tourterelle, en chérissaient l'air amoureux. Et les mallards sauvages aux ailes de feu glissaient sur les marais d'argent. La terre couchait seule avec son grand amant, les cieux, nue sous l'œil pourpre de son prince. Dans l'extase de sa joie somptueuse, elle jetait au vent les notes de la musique d'amour, éparpillait le dessin passionné de ses floraisons et le festival exultant de ses senteurs et de ses couleurs. Tout est écrit à tes bondissements. Les pas furtifs de ces créatures en chasse, la verdeur échevelée de sa crinière de centaure, le zaphyr et l'or de son ardeur et de sa flamme. Magicienne de ses félicités ravies, folâtre le cœur sensuel, insouciante et divine, la vie courait ou se cachait dans les espaces enchantés de la terre. Derrière tout planait le calme grandiose de la nature. La paix vierge était là. Elle abritait dans sa poitrine tranquillement la lutte des bêtes et des oiseaux. L'homme à l'artificier au front malin n'était pas venu mettre la main sur les heureuses créatures inconscientes. La pensée n'était pas là, ni le calculateur, ni son labeur aux yeux perçants. La vie n'avait pas encore appris sa discorde avec son but. La puissante mère reposait à l'aise, les bras ouverts. Tout suivait la ligne de son premier plan satisfait. Mû par l'universelle volonté de joie, les arbres fleurissaient dans leur verte félicité et les enfants sauvages se remâchaient, point la peine. Mais à l'horizon se dessinait une gigantesque étendue sévère et des abîmes inextricables, des contreforts inquisiteurs et implacables, et des pics comme une austérité nue de l'âme, cuirassés et lointains dans une désolation grandiose, comme la pensée masquée des infinitudes, guettant derrière le sourire ravi de la danse du Tout-Puissant. Une haute tête aux yeux torsadés, telle la cime d'une forêt, envahissait les cieux, comme si un ascète à la gorge bleue scrutait du haut de son antre de roc dans les montagnes, examinant le bref bonheur des jours, la vaste ampleur de son esprit reposée derrière lui, cachée. Un immense murmure d'abandon assaillait l'air. Un appel de détresse sans borne, comme d'une âme qui quitte le monde. Telle était la scène que la mère ambiguë avait choisie pour sa brève heure de félicité. Ici, dans cette solitude à l'écart du monde, commençait sa tâche dans les joies et la lutte du monde. Ici se découvrir en elle les fiançailles mystiques, les portes secrètes de la beauté, de la surprise, les ailes qui battent dans la maison d'or, le temple de la tendresse et la nef ardente. Étrangère sur les routes chagrinantes du temps, immortelle sous le joug de la mort et du destin, exécutante du sacrifice de la joie et de la douleur des sphères. En cette terre vierge, l'amour vint à la rencontre de Savitri. Fin du chant 1. Alors je vais vous lire le Nota Bene, Ainsi représente-t-on Shiva dans la tradition indienne, le dieu destructeur à la fin d'un cycle. Il a la gorge bleue car il avale le poison du monde. Et l'heure de félicité correspond au Nota Bene de Satprem. C'est donc quand l'approche la fin d'un cycle, notre cycle humain après la première beauté de la terre que Savitri a choisi de rencontrer l'amour qui pourrait sauver ce cycle de mort et changer la vieille semence du cosmos. Alors voilà, je termine aussi le livre 5 qui est le livre de l'amour, Sri Aurobindo. Savitri, livre 4 et 5, traduction de Satprem en français. Je remercie infiniment pour cette lecture Sri Aurobindo et douce mère Ganga Lakshmi.